Une idée. Créer. Inventer. On sait pas faire autrement. L'être humain crée a toujours créé, et ceux qui le font le mieux forcent l'admiration. On tombe amoureux des originaux, de ceux qui inventent une passe de Chavi, une feinte de Guti, un coup franc de Juni, une panenka de panenka. Les créateurs donnent du goût, donnent envie. Alors on essaye, on se trompe, on tente, on se plante et on recommence, et on se sent vivant. La vie est belle par la création. Tenter de faire naître des choses de rien, des émotions, des sentiments, des maisons, des dessins, des larmes et des rires parfois, des pourquoi et des félicitations un peu. Si l'on regarde notre enfance avec tant de tendresse, ce n'est pas un bête réflexe zémourien de c'était mieux avant. C'est qu'on regarde avec les yeux mouillés cette époque où tout était à créer dans nos vies. Dans la cour de récré, à la rentrée, alors que les jours se raccourcissent et que les feuilles de marronnier sont partout sur le sol, on rêve. On s'imagine pirate, footballeur, cosmonaute, président, footballeur, chanteur, acteur, footballeur. Et on fait des retours acrobatiques à la chaîne. On s'écorche les genoux, on pleure, mais on essaye. On essaye jusqu'à presque réussir. Alors, on est déjà en octobre, les jours commencent à être plus courts et nous, on est les mêmes gosses. Ce média, c'est notre tournée acrobatique à nous. On va sûrement s'écorcher les genoux, pleurer peut-être, mais on vous promet qu'on va essayer. Essayer jusqu'à presque réussir. 11e arénée, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Poteau Carré. Poteau Carré New Look, plus court, plus dense. On garde quand même les mêmes ingrédients, vous apprendre des choses, prendre le temps de parler de foot différemment. On va essayer de pas faire de l'actu, du débrief bête et méchant. On va se projeter dans les semaines à venir en vous offrant toutes les deux semaines un zoom sur un sujet très précis des 5 gros championnats. Mais déjà, je vais vous présenter ou représenter, pour ceux qui étaient déjà avec nous l'an dernier, la petite équipe qui m'accompagne. Alors depuis qu'il est parti, le foot français se porte quand même vachement mieux. Hasard, coïncidence, Flo est avec nous en distanciel parce qu'il est en train de sillonner en ce moment l'Amérique du Sud, peut-être dans les pas de ses ancêtres. Comment ça va Flo, t'es dans un café là?
Je suis dans un café au fin fond du Pérou à 3000 mètres d'altitude. Donc s'il y a quelques difficultés sonores, vous m'excuserez, mais je suis dans un bar qui fait des smoothies, donc c'est vraiment compliqué pour le son.
Toujours bien placé comme sur un terrain. Avec nous... on a Alex. Quand il était petit, c'était pas les posters de Henri ou Zidane qui ornaient les murs de sa chambre, mais bien ceux de Raymond Coppa. Comment tu vas, Alex?
Oui, toujours la vieillesse qui est mise en avant. Écoute, je vais très bien, Jules, et très excité et très content de qu'on se retrouve tous et avec ce nouveau format.
Et enfin, avec nous, l'architecte de ce média, celui par qui l'idée vient. Donc c'est la première fois que je le vois heureux, en plus, alors que Lyon est 10e. Après une traversée du désert tactique en tant que supporter, Val est un nouvel homme. Il s'est mis au Hollandais et il ne jure que par Peter Bosch. Ça va?
Eh bien, super bien. Et en plus de ça, c'est cool parce qu'Alex n'a pas pris une ride depuis l'année dernière. Donc vraiment, on est vraiment très, très heureux de cette nouvelle année
avec
ce nouveau média.
D'un moment. Ça ne bouge plus. Il est toujours aussi jeune dans sa tête, en tout cas. Les gars, avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder notre gros thème du jour, vous connaissez mon petit amour des PMU, j'aime bien qu'on fasse un petit point café du commerce. Donc je vais vous poser une question. Ce que je veux, c'est vraiment de la culture de l'instant, pas de réflexion, de la mauvaise foi. Je veux vraiment que vous répondiez avec vos tripes et pas avec votre cerveau. Donc j'y vais sur la première question. Les gars, après 9 journées, qui est la meilleure recrue du championnat de France? Faut se mouiller, faut y aller.
Allez, on va dire, en plus c'est peut-être un petit peu en lien avec nos sujets du jour, mais le petit Frankowski à Lens.
Ah, Frankowski, pourquoi pas? Encore une réponse de hipster de la part de Val, il est incapable de te répondre Messi, cet enfoiré.
Bah tu vois, il fait tellement une saison extraordinaire que comme ça j'allais dire Paqueta, mais il est arrivé l'année dernière à la trêve. Tu vois, j'ai envie de te dire comme un footix Léo Messi, parce que
ouais, c'est ce qu'on veut, c'est exactement
ça que
je veux.
Tu vois, je suis toujours là à regarder minute par minute le moindre de ses mouvements sur le terrain, même s'il n'est pas... excellent en Ligue 1 depuis le début, mais allez, partons sur Léo.
Ok, Léo Messi. Et toi, Flo, notre Chicanos?
Alors, j'ai hésité en termes de nouveaux joueurs. J'ai juste une petite mention à faire sur un joueur qu'on n'avait pas vu venir cette dernière saison, c'était Malo Gusto, qui je pense va ravir les supporters lyonnais. Mais sinon, pour moi, la recrue de ce début de saison, et je ne vais pas faire le hipster, c'est Achraf Hakimi au PSG. C'était le chaînon manquant dans cette équipe depuis plusieurs saisons. Et je suis un peu déçu autant par d'autres recrues du PSG, type Wijnaldum, que je pensais très bien s'adapter, et qui a un peu de mal pour l'instant, mais Achraf Hakimi, lui, il n'y a aucune adaptation, il est déjà au top niveau.
C'est vrai, t'as quand même réussi à faire ta réponse de hipster, à glisser Malo Gusto, enfoiré.
C'était pour, mais c'est pour
Bah disons que c'est à côté de notre asthmatique de Dubois, ouais, ouais. Il est bien, quoi.
Déjà, il est en bonne santé, ce qui est déjà une qualité. Voilà. Bon bah les gars, on part sur ce gros sujet.
Allez, c'est parti.
Parti. C'est un dauphin beaucoup moins vicieux et chiant que l'animal aquatique préféré de ta petite sœur. C'est un dauphin aux yeux léchés, paré d'une tunique sang et or délicieuse et évoluant dans un stade à nouveau bouillant pour notre plus grand plaisir. Pour cette première émission, on a décidé de s'intéresser au RC Lens et plus particulièrement à l'architecte du renouveau de cette place forte du foot français, Franck Hez. On voulait retracer pour vous le parcours de ce technicien encore anonyme il y a quelques saisons. Si son nom était plus ou moins connu de la part des puristes, le grand public l'a clairement découvert en Ligue 1 depuis une saison et demie. Quand il prend la suite de Montagnier, donc. Donc enfin, au grand plaisir de notre maître à tous Raymond Domenech, on a sous les yeux un technicien français au projet de jeu plutôt excitant, avec du charisme et des idées. Mais du coup, on va essayer de retracer un peu d'où il vient. Les gars, on va revenir un peu en arrière. Où est-ce qu'il a commencé, ce gars-là?
Ouais, le joueur, en fait, c'est pas un joueur qui va, tu l'as dit, c'est un mec qui passe un peu inaperçu, qui a une carrière solide en Ligue 2 et en National. C'est un gars qui va jouer à peu près 300 matchs en Ligue 2, par exemple, mais qui va osciller entre quelques clubs. Alors, déjà, c'est un mec qui aime le nord de la France, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on va voir dans l'histoire du gars. Mais c'est un mec de Seine-Maritime qui va commencer à Rouen, à l'époque au Rouen aussi, entre la National et la Ligue 2. Et il va ensuite évoluer à Laval, Beauvais. Il va refaire un retour à Laval. Et il va finir sa carrière au SCO, au tout début des années 2000, où il va permettre d'ailleurs au SCO de remonter en Ligue 2. Et il a se passé de joueur un peu inaperçu, mais de joueur solide de Ligue 2 sur lequel vraiment tous les coachs peuvent compter. Il va commencer milieu récupérateur et il va assez vite au final rétrograder. Alors je crois que c'est dans son passage à Laval où il va passer en fait latéral gauche. Alors il est connu pour avoir une belle technique, mais être aussi un joueur assez rugueux. Ce qu'on voit pas forcément aujourd'hui dans ses qualités de coach, on en reparlera. Mais voilà, c'est un mec qui a une carrière, qui a jamais joué de match en Ligue 1 et qui a une carrière au final solide, mais qui passe inaperçue auprès du grand public.
Ok, donc c'est clairement le joueur solide, pas plus technique que ça, mais sur lequel on peut compter. Tu voulais rajouter un truc, Val?
Ouais, pour revenir sur le joueur, Flo disait qu'il avait rapidement été replacé en tant qu'arrière gauche. Ça a quand même pris pas mal de temps, parce qu'au final, sur ces 300 matchs de Ligue 2, il y en a quasiment la moitié qui fait en tant que milieu de terrain défensif et la moitié en tant qu'arrière gauche. Et comme le disait Flo tout à l'heure, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est deux postes qui sont aujourd'hui assez importants, même dans sa fonction de voix, enfin dans sa vision du foot, et ça se voit beaucoup sur son RC Lens, mais on en rediscutera un peu.
C'est vrai, clairement. Et donc du coup, forcément, sa carrière de joueur s'arrête évidemment à un moment, et il me semble que certains, en tout cas quand on a lu des papiers, etc., ça se sentait déjà qu'il avait un peu la fibre, et donc du coup quand il a commencé à entraîner, il a commencé très bas, pas du tout dans les trucs, les grands clubs de haut standing.
Ouais, complètement. C'est un mec qui dégage ça aussi, ce côté modeste et surtout qui s'entend avec tout le monde. Et ce qu'il revendique beaucoup quand il parle de sa carrière d'entraîneur, c'est qu'il a vraiment tout fait. La post-formation, la pré-formation, la formation, entraîneur adjoint. Donc finalement, il commence au stade mayennais en CFA2 et il signe en tant qu'entraîneur adjoint joueur. Donc il est et sur le terrain et entraîneur adjoint. Finalement, l'entraîneur se fait lourder, il passe entraîneur joueur et il y a une sorte de déclic où il se fait sortir lui-même du terrain du coup. Et c'est là qu'il dit au milieu qui est à côté de lui, j'arrête. Sous-entendu, je sais que ma place maintenant c'est sur le banc et que j'apporterai beaucoup plus à cette équipe en étant sur le banc. Et c'est peut-être là qu'il y a ce premier déclic en fait de ma place est sur le banc.
Ok, mais ça donne déjà une petite idée du profil du gars. C'est que déjà il finit sa carrière en CFA2, c'est un amoureux de ce sport, il voulait continuer à jouer. Vas-y Flo, qu'est-ce que tu voulais rajouter?
Mais justement, ce qui est très intéressant pour compléter Alex, c'est que souvent on parle de coachs qui ont un passif de joueur et on sent dans leur carrière de joueur qu'ils vont finir coach. Je prends l'exemple d'un Deschamps. On savait en tant que patron sur le terrain, en tant que milieu de terrain, qu'il allait devenir entraîneur. Franck Hez, lui, c'est vraiment pas usurpé de dire ça, c'est-à-dire que c'est un mec qui commence à passer ses diplômes d'entraîneur dès ses 18 ans. Donc dès ses 18 ans, il a à peine commencé sa carrière professionnelle, il est toujours au centre de formation de Rouen, et en fait, dès ce moment-là, il va commencer à préparer sa carrière de coach derrière parce qu'il sait que c'est ce qu'il veut faire. Et évidemment, c'est quelque chose qui, au final, va l'accompagner tout au long de sa carrière et qui va le pousser, comme vient de l'expliquer Alex, à prendre le stade mayennais tout de suite à la fin de sa carrière, en fait.
Ouais, ça en dit beaucoup en fait sur le personnage. Du coup, c'est un mec qui a anticipé, qui savait où il allait. Ça se voit un peu quand tu le vois maintenant. Tu sens que c'est un mec bien droit. Mais du coup, il a pas été que coach. Il a fait plein d'allers-retours dans des petits clubs. Il a été formateur. Val, tu veux en parler un peu? Ouais.
Depuis qu'il a pris sa retraite de joueur, je crois que c'était en 2003. Il a été coach dans plein de clubs. Il a d'abord pris les U17 de Rennes avant d'enchaîner et de partir chez le voisin l'Orienté. Voilà, aucune amertume à partir chez le voisin. Non, après, il a entraîné la CFA2 de Lorient. Et en 2016, au moment où Sylvain Ripoll se fait virer, il prend l'intérim pour quelques matchs seulement.
C'est la rare fois où on l'avait aperçu. Moi, son nom me disait quelque chose. Ouais, et je pense que c'est lié à ça. Ouais.
Bah, c'est la première fois où il entraîne en Ligue 1, en fait. Ça dure pas très longtemps. Et c'est là que son parcours est un peu atypique. C'est qu'après, au lieu d'ambitionner, de vouloir directement jouer ou entraîner dans un club clubs de niveau professionnel, donc que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1.
Que non, je disais, Val, que Lorient lui a proposé justement une place en équipe réserve et première après, et qu'il se sentait pas prêt.
Exactement. Et bah, du coup, d'où la continuité de sa carrière. Après, il part faire 3 ans à la réserve de Lens, jusque justement au fameux départ de Philippe Montagnier en février 2020, où là, il est promu entraîneur de l'équipe première, donc encore en Ligue 2. Et évidemment, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il est promu 2 matchs après la pandémie, la saison s'arrête, et du coup, il est promu en Ligue 1 après seulement 2 matchs de Ligue 2. Mais le boulot qu'il avait fait jusque-là avec la réserve, etc., lui ont permis de conforter sa place sur le banc de Ligue 1 et donc de lancer cette première saison de Ligue 1 pour le retour de.
Mais c'est vrai qu'on voit son côté proche des jeunes. Ça vient forcément de son passé d'entraîneur de la réserve. Ça devait quand même être assez marrant quand ça parlait tactique avec Sylvain Ripoll. J'imagine pas trop ce qu'ils ont pu s'apprendre l'un et l'autre. Flo, tu voulais rajouter un truc sur son parcours au petit niveau, entre guillemets, avant d'arriver à Lens.
Une autre anecdote, c'est qu'en fait, ces années rennaises et lorientaises qui sont très intéressantes en Bretagne. Alors on peut se dire, bon, ces deux clubs bretons, il y a toujours ce petit problème. Au final, Christian Gourcuff n'aura pas été le seul à faire le chemin entre les deux clubs. Il va suivre ce travail avec un autre joueur qui est devenu entraîneur, qui était un de ses coéquipiers à Laval à la fin des années 90, c'est Régis Lebris, et tous les deux en fait vont se conforter dans leurs idées de jeu, et c'est eux deux qui vont relancer notamment la formation à Lorient. Ils vont passer par Rennes, au moment où par exemple Francaise est entraîneur des U17, Régis Lebris est entraîneur des U18 nationaux de Lorient, et ensuite ils vont se suivre ensuite à Lorient. Ils vont vraiment mettre en place une politique de formation à Lorient sur laquelle Christian Gourcuff va pouvoir s'appuyer en récupérant notamment le travail qu'ils ont réussi à faire à Rennes.
Ok, cool. Bah du coup, on voit que c'est pas comme tous ces entraîneurs stars qui ont commencé direct dans un gros club. Mais bon, voilà, on a compris d'où il venait. C'est un mec qui a eu besoin de comprendre à tous les niveaux, que ce soit les jeunes, les petits clubs de CFA, de revenir entre guillemets à la base du foot. Par contre, pour ceux du coup qui ont regardé que quelques bouts de matchs de Lens et qui regardent juste le classement, etc., quel style de coach c'est ? Est-ce qu'on arrive maintenant à bien analyser ses idées de jeu, ses principes tactiques ? Est-ce qu'il y a un de vous qui s'est vraiment intéressé à ça ?
Bah, déjà, pour remettre dans le contexte, Val a bien expliqué qu'il y a la pandémie qui arrive, et il faut savoir que quand Lens arrive en Ligue 1, nous les premiers, on se dit tous qu'ils vont dégager leur coach et prendre un vrai coach de Ligue 1. Donc on part tous au début de la saison en se disant, mais ce mec va jamais tenir la distance, ça va être un des premiers coachs à sauter et il tiendra pas. Et finalement, il arrive avec un système assez sexy. Il part sur un 3-4-1-2 qui met en avant le rôle des pistons sur les côtés. Maintenant, on connaît tous Jonathan Clauss grâce à lui.
Mais même ce qui est marrant, c'est qu'en plus, maintenant, c'est un peu la mode de ces systèmes-là. On n'en voyait pas tant que ça à l'époque quand lui le met en place.
Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que même lui, c'était pas un passionné de ce système. Il le découvre à Lens quand il commence à entraîner la réserve, mais au départ, lui, il jouait tout le temps en 4-3-3, 4-4-2. Il n'était pas bloqué sur ce système à 3 centraux et avec ce rôle des pistons qui est complètement différent. Et puis, ce qu'il amène en plus, et qui est peut-être le plus significatif du RC Lens de Francaise, c'est ce pressing constant où à chaque fois, et ça il le dit dans ses interviews, à chaque fois que l'adversaire rate un contrôle, il veut que ses mecs se rapprochent de lui. À chaque fois qu'il y a une erreur technique, il veut que le pressing, et il crie souvent, c'est le truc qui revient souvent, c'est il crie à ses joueurs, montez, 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 allez vous rapprocher le plus possible du porteur du ballon, parce qu'il n'est pas à l'abri d'une erreur, et c'est à ce moment-là que vous allez faire la différence et récupérer...
C'est un peu notre petit Jürgen Klopp des corons, quoi.
Ce que tu dis est d'autant plus intéressant, parce que si on s'intéresse à sa carrière d'entraîneur, lui, le BEPF, au départ, il voulait le passer à Mayence parce que il était très intéressé par le travail de Klopp et Tuchel, et bon, finalement ça l'a pas fait parce qu'il parlait pas allemand, qu'il a pas trouvé d'interprète. Finalement il l'a passé à Genk, mais son BEPF, il veut le faire à Mayence parce qu'il s'inspire du travail
de
Tuchel.
Ok, cool. Bah du coup, ouais, on voit un peu le style de tactique qu'il veut mettre en place. Flo, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus?
Non, ce qui est très intéressant effectivement sur cette défense à 3 auquel Alex le disait très justement, il est pas très fan et il l'instaure au final en réserve à Lens, et il a des résultats d'ailleurs qui sont des résultats exceptionnels à l'époque pour la réserve lensoise. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un entraîneur qui a des préceptes de jeu très établis avec ce pressing-go, cet engagement total, ces relances courtes, mais c'est pas un entraîneur qui est dogmatique, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser sur beaucoup de choses. Mais par exemple, c'est un mec qui va, donc il va osciller avec son système en 3-4-1-2 ou le 3-5-2, mais il va surtout s'appuyer en fait sur mettre en place un système pour s'appuyer sur la qualité de ses joueurs. Son système à 3 défenseurs avec 2 pistons sur les côtés, c'est essentiellement parce qu'il voit en Clauss et maintenant avec d'autres joueurs comme Frankowski qu'il y a des joueurs qui ont les capacités pour jouer sur les couloirs, mais aussi son 3-4-1-2, il met dans une position idéale Gaël Kakuta, qu'on sait l'irrégularité, mais on sait aussi le talent et la qualité technique et la vision de jeu de Gaël Kakuta. Dans cette position, en fait, il est dans un 10 à l'ancienne complètement libre, où il peut servir ses deux attaquants, qui pour le coup, eux aussi, ont des profils qui correspondent parfaitement à une attaque à deux. On a un Kalimuendo qui va plus être un attaquant dans la profondeur, là où Sotoka va plus être un attaquant de fixation ou très utile dans les déviations aériennes.
Ouais, bah du coup on reparlera un peu plus longuement de Lens tout à l'heure, mais du coup là on a à peu près compris tactiquement où il voulait aller. Moi ce qui me fait marrer, enfin je sais pas ce que t'en penses Val, dans le style de coaching, je trouve qu'on a beaucoup d'entraîneurs maintenant où on sent que soit c'est des mecs qui sont vraiment dans l'affect et dans l'humain et dans l'énergie, ils ont des petites lacunes tactiques, et soit c'est des gros tacticiens mais ils ont des petites lacunes. Et lui, j'ai l'impression qu'il arrive à être un peu à cheval entre les deux, il me fait un peu penser à un mec comme Galtier. Je sais pas si dans ce style de coaching on retrouve ça dans sa relation avec ses joueurs et tout. Val, je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus.
Ouais, complètement, et ça c'est aussi un élément qui est très propre à lui et qui est très propre aussi au RC Lens, c'est que ils ont réussi à mettre en place un staff technique qui était assez élargi pour un club de Ligue 1 aujourd'hui. Il a aujourd'hui une dizaine dans son cercle proche de une dizaine de techniciens qui l'accompagnent justement dans son travail, que lui il dirige, et il y a un entraîneur adjoint, il y a un analyste vidéo, il y a un directeur de la performance, et tout ça sont des personnes qui font la réussite du RC Lens aujourd'hui, parce que ils ont une super complémentarité entre eux justement, et que aucun ne va déborder sur le travail de l'autre, et ils sont très clairs au niveau de chacune de leurs missions. Il y a une interview de Frank Hayes qui est parue dans Copa Arena il y a pas longtemps, où il explique le rôle du directeur de la performance qui s'appelle Laurent Messière, et il dit que en fait Laurent Messière, il dédouane complètement Frank Hayes d'une partie de son boulot, par exemple tout l'aspect médical, tout l'aspect psychologie, tout l'aspect diététicien et même des professeurs de yoga, etc. C'est lui qui s'en charge, qui gère la relation avec les joueurs, qui identifie aussi les besoins chez les joueurs, et ça c'est un énorme travail de fond que n'a pas à faire Frank Hayes, qui lui de son côté peut travailler sur le jeu, peut travailler sur les systèmes tactiques. À côté de ça, il a aussi Alou Diarra qui est resté dans le staff technique, qui lui fait le lien, qui est très impliqué sur tout ce qui est coup de pied arrêté défensif, etc., qui fait aussi beaucoup le lien avec la formation, avec les U19.
Donc il délègue énormément.
Il délègue énormément, et en fait, et c'est aussi, ça fait aussi partie, c'est aussi révélateur d'un certain trait de caractère qui est, je pense, l'humilité qu'il a beaucoup chez lui, et qui aussi lui permet de se remettre en cause continuellement, et c'est ça, je pense, qui fait la grande force de Frank Hayes.
Ouais, c'est une vraie forme d'intelligence. Et du coup, je sais pas du tout si vous avez la réponse, je vous pose la question par curiosité, mais est-ce que ça, est-ce que c'est une particularité du RC Lens, on le retrouve quand même dans beaucoup de clubs en Ligue 1, et est-ce que c'est une volonté de Frank Hayes, ou est-ce qu'on l'a installé là en lui disant écoute, toi tu t'occupes de ça, mais il y aura d'autres gens pour gérer d'autres trucs, ou c'est lui qui a voulu qu'il y ait ça en place?
Quand il passe son BEPF, dans le dossier qu'il présente pour défendre son diplôme, lui, il part du postulat qu'il veut une psy dans chaque club, par exemple. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez lui.
Il est déjà dans
lui.
Cette réflexion.
Voilà. Après, pour la question générale, en fait, j'ai envie de te dire, tous les clubs devraient bosser comme ça. Mais sauf que, et c'est ce qu'on disait quand on énumérait les problèmes de la Ligue 1, et on vous renvoie aux émissions qu'on a fait précédemment, tous les clubs ne bossent pas comme ça en Ligue 1, loin de là. Et c'est là, en fait, où il a instauré un professionnalisme qui s'exporte, enfin, qui se voit d'autant plus sur, moi, je trouve, la maîtrise de son effectif. Et en fait, la connaissance qu'il a des capacités de chacun de ses joueurs, et surtout des profils qu'il demande pour construire son effectif. Val nous a parlé des diététiciens, de la prof de yoga, de la psy, etc. Mais il y a aussi un travail qui est fait en amont pour savoir quel joueur je prends pour le mettre au mieux et l'intégrer au mieux dans l'effectif.
On va parler un peu plus des joueurs et du RC Lens tout à l'heure, mais c'est intéressant
juste une
du coup,
petite
de
précision.
Voir ça. Vas-y Val,
juste pour une petite précision technique, le BEPF, c'est le diplôme que passent les entraîneurs français pour accéder au niveau professionnel.
Oui. Voilà. Flo, tu voulais rajouter un truc peut-être là-dessus, sur ce sujet-là du staff et tout?
Ouais, c'est juste sur l'élargissement du staff, pardon, c'est qu'effectivement, en fait, son humilité qu'on retrouve pas forcément, c'est tous les coachs. Je pense que c'est sa qualité première, parce que c'est un des rares coachs qui n'a absolument pas peur, en tout cas en France, de s'entourer de gens compétents, et parfois sur certains domaines qui vont être plus compétents que lui. Par exemple, quand il arrive dans le staff en 2020, donc quand Lens a un corps en Ligue 2, il va tout de suite élargir son staff, il va garder le staff présent parce que Montagnier avait déjà fait un bon travail, et il le dira lui-même d'ailleurs, mais il va aussi par exemple intégrer au staff Lilian Alice, qui est un ancien joueur qui a joué notamment à Leicester, au Chievo Vérone, qui a une longue carrière aussi en France, qui a eu des expériences à l'étranger, et il va s'en servir, il va directement l'intégrer dans son staff pour justement lui apporter encore plus de plus-value que ce que d'autres coachs ne feraient pas forcément, en tout cas.
Ouais, Flo, tu fais bien de parler de son humilité. D'ailleurs, on le voit, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs pro qui ont eu un parcours comme lui, c'est-à-dire qui ont accepté de redescendre aux échelons inférieurs pour apprendre, etc. Et c'est vrai qu'on sent que c'est, que ça fait partie de lui en fait, tout simplement. Et ça permet en fait aussi à Lens aujourd'hui d'avoir vraiment d'excellents résultats. Même en plus de ça, ils sont assez beaux à regarder jouer. Et voilà, on a découvert plein de joueurs incroyables. C'est certainement le travail de la cellule de recrutement, notamment Val. Je crois que tu t'es intéressé un peu à ce qu'il faisait.
Ouais, bah justement, je te parlais un petit peu du staff élargi qu'il avait. Il a un staff proche, qui est le staff technique avec lequel il travaille au quotidien, donc le directeur de la performance, l'analyse vidéo, etc., les mecs qui sont avec lui sur le terrain. Et à côté de ça, si on prend le staff un petit peu plus élargi du RC Lens, il y a ce qu'on appelle un coordinateur sportif qui s'appelle Florent Guilsofi, qui est un ancien joueur de foot aussi, qui lui mène aussi la cellule de recrutement, sur laquelle il y a aujourd'hui 4 personnes, dont 2 qui travaillent à temps plein. Parmi eux, il y a Grégory Thiel, l'ancien joueur, et Aledine Niaya notamment, qui était aussi à Lens, donc qui est revenu.
Du coup, juste préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ont tendance à regarder que la première ligue, etc. Déjà 4 personnes, dont 2 à temps plein dans un club français, c'est énorme. On a des mecs, normalement, ils sont 15.
Ouais, exactement. Non, mais du coup, voilà, il y a un vrai, vrai travail qui est fait en coordination là aussi avec Frank Hayes, où ils font des recherches de joueurs adaptés au style de jeu et adaptés aux lacunes qu'ils ont aussi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui. Ils ont encore fait un mercato qui était très intéressant cet été. Je vous parle même pas du mercato de l'été dernier où ils avaient notamment signé Seko Fofana, qui est aujourd'hui quasiment, tu nous parlais tout à l'heure de la meilleure recrue de Ligue 1 cette année. Je pense que Seko Fofana fait très largement partie des 3 meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de saison. Voilà, c'est.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'était que moi j'ai trouvé le recrutement de cet été très intelligent. Parce que faire un premier recrutement où t'as des bonnes pioches, bon, c'est une chose, mais ça veut pas dire que tu bosses bien. Ouais. Mais là, tu sens qu'ils ont réussi à juste parfaitement ajusté là où il leur manquait des choses.
Ils ont eu le départ de Loïc Badé cet été pour 20 millions d'euros à Rennes. Tu dois être au courant, Jules. Voilà, qu'ils ont parfaitement compensé avec le recrue de Kevin Danso, qui est un joueur qui est hyper intéressant pour le style de jeu de Lens, qui sait très bien jouer sous pression, qui est un super transperceur de ligne. Et sur les côtés, ils ont recruté Frankowski, qui est un des meilleurs joueurs de la saison, qui a marqué un but magnifique contre Marseille. Et à gauche, il y a Denver Machado. Bref, c'est des recrutements qui sont faits en fonction des besoins, mais aussi des lacunes. Et ça, c'est super important de connaître aussi ses faiblesses et le fait qu'il travaille de manière très proche avec la cellule de recrutement, ça fait qu'aujourd'hui il y a un produit de jeu
qui est
cohérent.
On sent que c'est pas des coups d'opportunité, voilà. Quoi, on sent qu'ils ont vraiment comblé leurs lacunes, mais ça c'est vrai que ça fait plaisir de voir un club de Ligue 1 bosser là-dessus, parce que c'est pas tout le monde qui travaille comme ça. Coucou Florian Maurice. Alex, toi tu voulais rajouter un truc là-dessus?
Oui, pour illustrer les propos de Val, quand Danso il signe à Lens, en fait, pour dire concrètement comment travaille le club de Lens, ils envoient Danso avec les analyses vidéo un montage des sorties de balles lensoises, de comment travaille le club sur les sorties de balles, sur le pressing, et en plus de ça, ils envoient un montage à Danso, des matchs de Danso, pour lui montrer, regarde comment tu vas trop bien t'intégrer dans cet effectif. En gros, t'es fait pour jouer chez nous, regarde la complémentarité que tu vas apporter. Donc tu vois, c'est vraiment pas c'est pas de l'ordre de la pioche, genre tiens, je tente ce coup.
C'est,
je
c'est
pense
marrant
que
comme manière
marché.
De recruter les gens, de leur envoyer des montages vidéo, et peut-être faire ça avec les meufs maintenant. Moi, regarde comme on s'amuserait bien tous les deux. Flo, tu voulais rajouter un truc aussi sur cette cellule?
Oui, je veux rajouter un truc, ça va être compliqué d'enchaîner. Mais en fait, on parlait de Fofana l'année dernière. Fofana, à la limite, il est dans une case à mettre un petit peu à part, parce que Fofana, et je le dis bien dans ce sens-là, c'est le gâteau sur la cerise au RC Lens. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, en théorie, on l'avait vu en Serie A.
Souvent, t'as tendance quand même plus à foutre la cerise sur le gâteau que l'inverse, sinon justement, tu vas avoir des surprises. Mais...
Justement, c'est pour ça que je dis l'inverse, c'est vraiment le gâteau sur la cerise, dans le sens où c'est un joueur qui n'est pas taillé pour Lens, il est taillé pour jouer beaucoup plus haut, et on le voit avec les qualités qui montent depuis maintenant un an et demi. Mais ce qui est très intéressant dans les choix de recrutement, on parlait de Frankowski, on parlait de Danso, on parlait aussi de Machado et Wu, là, qui ont été recrutés cette année. C'est-à-dire qu'au-delà des profils qui sont très bien ciblés, on va aussi chercher dans des championnats qui sont complètement différents. C'est-à-dire que Frankowski, il vient de Chicago. Il n'y a quand même pas beaucoup de clubs français qui vont aller recruter aux États-Unis. Danso, il vient d'Augsbourg. Et Machado et Wu viennent de Toulouse et de Nancy. Donc, c'est des mecs qui viennent de Ligue 2. Donc, on voit aussi cette cellule de recrutement qui fonctionne très bien, qui, au-delà même du fait qu'il soit extrêmement bien ciblé, qui n'hésite pas à aller chercher dans plein de pays différents et plein de championnats différents.
Oui, ok, t'as raison, c'est intéressant. Après, bon, pour l'instant, on les félicite parce que tout marche bien. On espère pas que ça va continuer au niveau des recrutements. Toi, Val, parce que je sais que tu voulais qu'on discute un peu de la construction de ce groupe-là, etc. Je sais pas si tu vas pouvoir relier ça à ça. Moi, ce que je trouve très intéressant dans le coaching de Hayes, dans la construction de ce groupe-là de Lens, c'est qu'au final, si on demande à un mec qui regarde des matchs de Ligue 1 de temps en temps, etc., c'est dur de ressortir une star de ce truc-là. Il y a Fofana, il y a Kakuta, mais tu sens que Hayes, il a réussi à créer un groupe où c'est consistant et on a du mal à sortir des personnalités plus qu'une autre, quoi.
Bah, complètement. Et c'est en lien aussi avec la cellule de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe est construit de manière hyper homogène. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du RC Lens, c'est 28 ans. C'est une des plus élevées du championnat de Ligue 1. Et pourtant, à côté de ça, il y a des jeunes joueurs, alors que ce soit à travers la cellule de recrutement ou à travers la formation, parce qu'ils arrivent aussi à intégrer des jeunes de manière hyper naturelle dans le groupe. Mais aujourd'hui, Franca, ils ont environ genre 25 joueurs sous contrat, en gros, donc, dont 21 ou 22 joueurs de champ et des gardiens à côté.
Pas tant que ça, hein. C'est une volonté de sa part d'avoir un groupe réduit.
Ah, complètement, ouais. En fait, il préfère largement avoir un groupe qualitatif que la quantité. Et du coup, sur ces 25, avec des joueurs polyvalents aussi. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un groupe réduit. Parce que t'as des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Et c'était le cas notamment de Kevin Danso, justement, qui peut dépanner au milieu de terrain aussi. Et je reviens là où j'en étais. Sur les 25 aujourd'hui, il y a environ une dizaine de joueurs expérimentés. Donc, on les connaît, les Cahuzac, les Leca, etc. Une dizaine de joueurs qui arrivent à maturité. Aux alentours entre 24 et 27 ans, et des jeunes joueurs à côté. Donc ça fait un groupe qui est hyper homogène, enfin hyper justement hétérogène, et qui fait aussi la force de ce groupe-là, d'une certaine maturité. Chacun a son rôle, et c'est un petit peu à l'image de ce staff technique qui sait très bien ce qu'il doit faire de son côté, etc. Et voilà, et ça crée une osmose autour de cette équipe et de ce groupe, et même autour des supporters et du public, puisque c'est vraiment aussi une équipe qui est à l'image un petit peu de la ville de Lens, très solidaire, etc.
Mais tu sens qu'en plus, là où ça marche très bien, ce que moi je trouve intéressant, c'est que je me suis fait la réflexion autrefois, je me suis dit, des mecs qui aujourd'hui je trouve vraiment que c'est des super bons joueurs, comme Sotoka ou Gradit, etc. Il y a beaucoup de clubs qui seraient montés avec ce genre de joueurs, qui les auraient renvoyés en Ligue 2 ou qui les auraient cherché des mecs un peu plus clinquants et machin. Au final, ils font largement le boulot. Et je tiens à le dire sur Gradit, parce qu'on en a pas parlé, je trouve qu'il fait un début de saison assez incroyable. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter un peu sur la manière dont je vous lance, etc.? On essaye de se projeter un peu. Moi, Flo, tu voulais rajouter un petit truc, après je donne la parole à Alex.
Il y a un truc qui est très intéressant tout à l'heure quand je disais que c'est un entraîneur qui n'est pas qui a des idées de jeu et de beau jeu, et c'est pour ça qu'on fait une émission sur lui au-delà des résultats, c'est son beau jeu. Mais je reviens sur le fait que c'est pas un entraîneur qui est dogmatique. Attends, il y a une meuf qui lance un smoothie.
Le smoothie.
Attends, je pense que c'est bon. Ah, elle m'a dit minuto.
Ah, c'est a priori, vous voyez le niveau de LV2 de Flo, c'est minuto, a priori.
C'est terrible, on perd tout. Ouais, donc il y a un truc qui est très intéressant sur l'aspect non, pas forcément dogmatique de Francaise, malgré ses beaux préceptes de jeu. C'est que par exemple, aujourd'hui, Lens affiche à peine 47% de possession depuis le début de saison. C'est-à-dire que c'est la 14e équipe de Ligue 1 en termes de possession. Alors, ce qui fait sa force, c'est aussi son pressing très haut et ses transitions rapides. Mais par exemple, contre l'OM, il a su s'adapter, il est sorti de son 3-4-1-2 typique, il a mis un 3-4-3, ils ont même pas eu 40% de possession. Et pourtant, ils sont allés s'imposer au Vélodrome. Et quand on parle du but de Frankowski, on a notamment en tête aussi cette déviation de Sotoka, où cette fois-ci, ils n'ont pas relancé court, mais ils sont directement sauté les lignes parce qu'ils savent que dans le dos de la défense marseillaise, il y a beaucoup d'espace, notamment derrière les milieux. Et voilà, c'est-à-dire que Francaise n'est pas un dogmatique. Il a aussi cette capacité d'adaptation selon l'adversaire, tout en gardant son système selon ses joueurs.
Ouais, de toute façon, c'est très moderne. On voit de moins en moins de coachs dogmatiques. On va finir avec toi, Alex, tu voulais terminer
ouais,
sur
non,
un truc.
Ouais, non, simplement pour finir sur ce match de l'OM qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a amené en même temps beaucoup de plaisir parce que c'était un match absolument formidable. Il commence le match avec Kakuta et Klose sur le banc. Et en fait, ça dit tout, je trouve, de sa maîtrise des événements et sa maîtrise de son effectif. Parce que aller jouer au Vélodrome un dimanche soir en se disant mes deux meilleurs joueurs, on peut considérer Kakuta et Klose parmi le top 5 de son effectif, deux de ses meilleurs joueurs sur le banc, et en fait jouer sur les lacunes marseillaises en se disant j'ai bien vu que la faiblesse des Marseillais c'était le repli défensif sur les couloirs à partir de la 65e minute, 70e minute il fait rentrer Jonathan Klose, il fait rentrer Gaël Kakuta, et en fait il plie Marseille complètement, ils les prennent à leur propre
ouais, bah,
jeu.
Si on se rappelle de ce match-là, ouais, il les a bouffés tactiquement.
Et c'est un mec qui, je trouve, il paye pas de mine comme ça. T'as l'impression que tu le croises au coin de ta rue, tu te dis bonjour Monsieur Dupont, tu vois. Et en fait, parce qu'il dégage une sérénité et une maîtrise des événements, t'as l'impression que tout glisse sur lui. Il est deuxième de Ligue 1, tout va bien. Il a Thierry Henry en face de lui qui est en train de lui faire des éloges. Il sourit comme un gamin.
Je suis d'accord, il fait très droit dans ses bottes. On a l'impression en plus que tout est calculé. J'avais lu d'ailleurs un truc d'un de ses anciens partenaires qui dit qu'il s'est toujours intéressé au vin depuis toujours et que c'est quasiment un œnologue et que lui, par exemple, s'il t'invite à dîner, il va réfléchir le vin en fonction du plat. Enfin, il est même dans la tactique de dîner, quoi. Le mec va très très loin. Donc bon, je pense qu'on a donné une vision assez générale de ce qu'était Francaise et de ce qu'était son RC Lens, de ses idées de jeu. Juste pour finir rapidement, je vais vous donner la parole à chacun. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour lui déjà et aussi pour Lens à court et moyen terme, sachant que maintenant il faut que Lens arrête de se planquer. Est-ce que ça va continuer comme ça? Là, petit rappel du coup de leur calendrier qui arrive, ils vont se déplacer à Montpellier, ils vont jouer chez eux contre Metz, ils vont se déplacer à Lyon, ils vont jouer chez eux contre Troyes, et puis après c'est Brest et Angers. Ça va. En vrai, ça va. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux pour les semaines qui viennent?
Bah, ça va, surtout que quand on a vu le dernier match de Lens là contre Reims, il me semble que c'était contre Reims. on a vu une vraie vraie sérénité et il jouait comme un prétendant à la Ligue des Champions quoi. Il y avait une vraie volonté de jouer et de dominer son adversaire et ça s'est vraiment retranscrit. Après aujourd'hui, je pense qu'on peut, que ce soit à travers la qualité de jeu et les émotions qu'on a ressenties, et on sait que ça va durer un petit peu, je pense qu'on peut dire que la saison de Lens est déjà réussie. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de plus ? Évidemment aller accrocher une place européenne, et je pense qu'ils auront pas énormément, enfin ouais, je pense qu'ils ont largement les capacités pour y arriver, surtout compte tenu des autres équipes en reconstruction à côté, Lyon, Marseille, etc. Et ouais, je pense qu'ils ont les capacités et ça serait vachement cool pour nous d'avoir
l'ensemble. Toi du coup Val, toi du coup en deux mots, tu les vois jouer l'Europe ça n'est
ah bah, complètement, ouais. Complètement. Bah, ils sont okay. Deuxième, ils ont déjà 3 points d'avance sur le troisième,
ça marche,
c'est pertinent hein.
Toi Alex, qui est un peu pareil que Val, j'imagine qu'on va tous être un peu d'accord là-dessus.
Oui, bien sûr, pour moi l'objectif de Lens cette année, c'est de viser le, bah, pas le top 5, en fait viser la 5e place, parce que t'es forcément derrière Monaco, Paris, Marseille, Lyon. Bon écoute, on verra, mais moi j'ai quand même l'impression qu'ils seront derrière eux. Après bon voilà, c'est toujours pareil, il y a souvent un gros qui se casse la gueule, on verra bien. Mais oui, il faut que, bah, déjà l'année dernière ils font un super résultat au classement, il faut que cette année ils rééditent la performance.
Okay,
et qu'ils
cool.
continuent de nous régaler surtout, c'est le
bah
plus
ouais,
important.
C'est surtout ça, que c'est qu'ils sont beaux à voir jouer en plus d'avoir des résultats. Flo, un peu pareil que tes deux compères j'imagine.
Ouais, je vais pas aller plus loin dans ce que viennent de dire sur la fin de saison, ce que viennent de dire Val et Alex. Il y a un truc qu'on a aussi un peu oublié de dire, c'est que Franquès, c'est un coach qui, en proposant ce jeu-là, et de par aussi son humanité en tant que coach, son passé de formateur, c'est un mec qui, je pense, ne va pas beaucoup user mentalement les joueurs. Il va les user physiquement parce qu'il demande beaucoup en termes de rigueur et en termes de jeu. Mais par exemple, il a une phrase qu'il a dit dans une interview sur l'équipe où il dit « Je suis persuadé que notre bonheur passera par notre volonté à imposer quelque chose sur le terrain. » C'est-à-dire que lui ne parle même pas de victoire, il parle de bonheur. Et je pense qu'en ça, les joueurs ne vont pas forcément se lâcher de ces méthodes. Après, ce qui peut être à la limite un risque à court et à moyen terme, c'est peut-être le départ de certains joueurs, parce qu'on voit beaucoup de joueurs commencer à briller. Peut-être que ça peut être une limite, peut-être qu'une ou deux des autres limites, ça peut être aussi le départ d'Ougourlian, le nouveau président de Lens depuis 2-3 ans maintenant, qui est un président assez humain, qui a apporté de nouvelles choses, qui est très dans le social, notamment avec les supporters, qui est très proche de son coach. Il a dit qu'il y avait des grosses difficultés financières, on ne sait pas combien de temps il va rester président du RC Lens, enfin propriétaire, ça peut être aussi une limite. Mais en tout cas, il y a un truc, moi, que je retiendrai entre l'histoire qui est en train très belle de se procurer, de se dérouler entre Francaise et le RC Lens, c'est que c'est un coach qui est fait pour ce club et ce club est fait pour ce coach. C'est-à-dire qu'il y a des coachs comme ça, Jurgen Klopp à Liverpool, c'était écrit, les deux vont parfaitement ensemble. Et bien Francaise et Lens, c'est pareil.
Ok, bah Flo, t'as raison, exactement. C'est vraiment le mec qui est au bon endroit, au bon moment finalement. Rien à voir avec moi pendant mes études. Donc on espère qu'on vous a appris plein de trucs sur ce RC Lens et sur Francaise. Et on va passer à la suite de l'émission. À chaque fin d'émission, nos trois chroniqueurs, donc Flo, Alex et Val, vont essayer de se projeter et de vous parler d'un match qui les excite ou qui les intéresse dans les semaines à venir, pour une raison ou une autre. Donc on va être très loin d'une preview classique et un peu ennuyante, on va vous faire des revues d'effectifs. Le but du jeu, c'est vraiment qu'ils vous parlent d'un aspect précis de ce match, que ce soit tactique, géopolitique, politique, ou simplement juste qu'on parle d'émotions brutes, de pourquoi ce match-là les intéresse. On va commencer par toi, Val. Je vais pas dire où est-ce que tu nous emmènes, mais on peut presque parler d'un derby de pourriture capitaliste.
Exactement, bah pour cette première émission, moi je voulais quand même mettre les petits plats dans les grands et commencer évidemment par vous parler d'un derby et pas n'importe quel derby, puisque j'ai décidé de vous parler du derby du capitalisme. Et ce derby du capitalisme, c'est Barça-Valence. Donc Barça-Valence qui aura lieu dimanche à 21h, qui est probablement l'affiche du point de vue sportif de la Liga ce week-end. Alors je vous connais, vous allez me dire oh là là, putain, ce mec il doit pas être très fort en géographie, en économie, parce que là il raconte un peu n'importe quoi. Alors oui vous avez raison, puisque a priori Barcelone et Valence sont des villes qui sont situées à 350 km l'une de l'autre, et a priori même si c'est deux grands clubs d'Espagne référencés, il n'y a pas une rivalité hostile entre ces deux clubs. Et nul en économie, parce qu'a priori ces deux clubs qui sont complètement surendettés jusqu'à la moelle, et que dépenser pour enrichir l'économie actuelle, c'est pas vraiment leur priorité actuellement. Mais donc pourquoi moi je vous parle de justement de ce derby du capitalisme, parce que c'est surtout le derby de la crypto-monnaie. Et vous savez évidemment tous ce que c'est qu'une crypto-monnaie, monnaie numérique, blockchain, tout ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis vraiment pas la personne la plus compétente pour ça. Mais depuis cette année, le Barça et Valence sont désormais deux clubs qui sont partenaires de la société Socios.com. Donc Socios.com, qu'est-ce que c'est ? C'est une application mobile qui est reliée directement à une crypto-monnaie qui s'appelle le Chiliz, dont le cours varie évidemment en fonction du nombre d'achats et de reventes, etc. Vous connaissez le concept. Et cette crypto-monnaie, donc, qui est le Chiliz, elle vous permet d'acheter directement sur l'application Socios.com ce qu'on appelle des fan tokens de ce club. Et donc ces tokens ont eux aussi une valeur marchande qui varie en fonction du nombre d'achats et donc qui sont soumis à la spéculation. Donc le but de ces tokens est donc... ceux qui en achètent, donc qui sont censés être des supporters de club, c'est d'avoir un pouvoir de décision dans le fonctionnement du club. Alors évidemment, vous n'allez pas décider de la politique économique du club, mais vous allez pouvoir décider la musique du stade, la couleur du maillot, visiter le stade, participer à des événements, et ça à travers des sondages qu'ils font entre tous les détenteurs de tokens. Évidemment, vous l'aurez compris, la raison pour laquelle Socios.com promet toutes ces belles récompenses, c'est que plus il y a de personnes dans le monde qui achètent ces tokens, plus la valeur de la crypto-monnaie va augmenter. Alors là, vous allez me dire, bon, moi je suis ni fan du Barça, ni fan de Valence, mais vous inquiétez pas, ils ont déjà tout prévu, ils ont déjà commencé à s'implanter un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, ils sont partenaires de plus de 37 clubs dans le monde, dont la Juve, le PSG, la Roma, le Milan, l'Atletico, Manchester City. Ils sont aussi sponsors maillot de l'Inter Milan, voilà, donc un peu partout dans le monde. Ils ont même déjà commencé à créer une devise spéciale pour l'UFC. Bref, vous commencez un petit peu à comprendre pourquoi je vous parle de derby du capitalisme, je pense. Et c'est pas tout. Parce qu'il y a un super article de The Athletic qui présentait cette fameuse boîte Chiliz, enfin cette fameuse crypto-monnaie. Et en fait, ils ont remarqué qu'aujourd'hui, bah, près d'un tiers des personnes qui détiennent des Chiliz sont des gens qui travaillent chez Chiliz. Donc forcément, c'est eux qui vont vous inciter à travers leurs belles promesses, là, de, évidemment qui sont des promesses de merde, qui vont inciter les supporters à acheter des fan tokens pour pouvoir revendre au prix fort, les convertir en Chiliz et ensuite gagner beaucoup plus de vraie monnaie. Donc voilà encore une belle manière de se foutre de la gueule des supporters en leur promettant des choses bien à chier, quoi, histoire de brasser encore un petit peu plus d'argent. Et donc voilà, petit rappel, le derby du capitalisme, c'est à 21h dimanche avec Barça-Real, mais aussi du coup à 15h avec West Ham-Everton et à 20h45 avec Juve-Roma.
C'est sympa, en tout cas c'est encore une belle image du foot que tu nous donnes, c'est un peu transformé, c'est un peu notre François Langlais, on va avoir des chroniques économiques à chaque fois. Le problème c'est que t'as l'air aussi chaud en économie que Clément Langlais avec un ballon, donc voilà, on peut faire aussi de temps en temps des jeux de mots. Toi Alex, tu vas pas du tout nous parler d'économie, et d'ailleurs je te trouve quand même assez tranquille.
On peut avoir une petite réaction quand même sur les propos de Val.
Je t'en prie, moi ça me déprime, mais toi vas-y.
Bah, parce que vous avez tous vu aussi que le salaire de Messi avait été payé en partie avec cette fameuse crypto-monnaie, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement Lionel Messi, il y a quand même une stratégie, il y a des mecs qui pensent derrière lui. Certes, il a eu des redressements fiscaux et tout, ça, tout n'a pas été idyllique dans la gestion de sa fortune, mais ça sous-entend quand même que le meilleur joueur du monde, un des joueurs les mieux payés du monde, s'est dit qu'il fallait investir dessus. Donc ce que Val critique à juste titre est pas prêt de disparaître et on en est même qu'aux prémices.
Ouais, bah c'est quand même complètement inquiétant. Flo, vas-y, inquiète-moi encore un peu plus. Je vais me mettre au rang, hein, si vous
voulez. Non, c'est pas pour t'inquiéter, mais c'est effectivement, on avait beaucoup parlé de Messi et le PSG avec son salaire qui serait en partie payé en tokens, enfin en crypto-monnaie. C'est aussi parce qu'il y a justement une société de tokens qui est devenue partenaire du PSG et ça a en fait été aussi un coup de com' et de partenariat qui a été fait. C'est pas forcément, je pense pas que si ce partenaire n'avait pas été fait, je pense pas que Messi aurait été payé en tokens et en crypto-monnaie. Mais c'est terrible de voir un club comme le Barça, au-delà de ce qu'on peut voir sportivement et dans la direction actuelle, se dire qu'un club des socios est en train de verser dans un club de crypto-monnaie, c'est assez affligeant.
Ouais, c'est un peu inquiétant en effet. Où est passé mon foot ? C'était quand même mieux avant. toi, Alex, vu que tu m'as bien coupé ma petite intro de tout à l'heure, non, blague à part, tu n'as pas du tout parlé d'économie. Toi, tu as l'air d'être quand même étonnamment plutôt tranquille, je trouve, pour un supporter marseillais, alors que vos prochains matchs, on le rappelle rapido, ça c'est quand même Lorient, Lazio, Paris, Nice. Tu fais semblant d'être serein ou t'es vraiment tranquille ?
Bon, je fais un peu semblant, tu connais la technique, on essaye de se rassurer pour se mettre à l'aise, mais on va reprendre les choses et les remettre dans le contexte. 19 septembre, c'est la date de la dernière victoire de l'OM, toute compétition confondue, forcément c'était face à Rennes, désolé Jules. Depuis, 2 nuls, 2 défaites. Alors forcément à l'OM, quand les résultats tournent mal, c'est tout l'environnement qui se délite et les problèmes qui émergent. Premier facteur de doute, l'entraîneur, Sampaoli. Adulé par les supporters pour ses inventions tactiques, maintenant il est perçu comme un entraîneur brouillon, qui tâtonne, qui parvient pas à trouver la clé pour gagner. Les critiques qu'on a entendues sur lui, maintenant, se portent davantage sur la prépa physique. Donc, du jour au lendemain, t'as des centaines de chroniqueurs ou de gens...
Oh, t'as plein de préparateurs physiques sur Facebook, par
voilà,
exemple.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement là où je voulais en venir, qui ont suivi toute la prépa marseillaise et qui t'expliquent qu'en fait, les joueurs sont cramés au bout de la 9e journée. Autre point de doute, les joueurs. On prend le pavillon témoin, Matteo Guendouzi. Adaptation de dingue, adulé par les supporters en début de saison, on connaissait tous ses lacunes quand il est arrivé, et maintenant on commence à dire qu'il fout le boxon dans le vestiaire, qu'il a des lacunes psychologiques, qu'il engueule les mecs. On prend un autre secteur, la défense à 3, Saliba, Balerdi, Luan Perez qui dégageait beaucoup de sérénité, on voyait des nouvelles relances, un jeu un peu léché. Et bon, finalement maintenant Saliba, c'est beaucoup de relances ratées, Balerdi, on se demande s'il valait le coup de l'investissement. Finalement, il n'y a que Payet qui semble sortir du lot et on se dit qu'il n'y a que lui qui peut avoir l'étincelle. Mais à l'heure d'affronter la Lazio et le PSG, bah on connaît Payet, hein. On sait très bien qu'il va se cacher. En fait... Là, je vous fais un portrait de ce qui se passe, de tout ce qu'on dit, que l'OM c'est fini, que, mais en fait que rien du tout. C'est facile de critiquer, de tout voir en noir, de se flageller, et c'est une spécialité marseillaise. Mais si on prend un peu de hauteur et qu'on constatait simplement que cette équipe, elle en est qu'à ses débuts, que les premiers matchs qu'on a vus, c'est un teasing de ce que Sampaoli peut proposer, qu'il a d'autres cartes à jouer, qu'il a d'autres idées dans sa tête, que le club a connu un nombre record de départs et d'arrivées durant l'intersaison, et pourtant tout le monde regarde l'OM cette année, parce que c'est une équipe qui fait kiffer. Je ne veux pas ici faire l'éloge de la défaite et dire que j'aime l'OM qui perd, bien sûr que non, mais simplement prendre du plaisir devant les matchs, et typiquement ce OM Lens. Moi, j'ai pris un kiff, mais monstrueux. Et c'était peut-être un peu naïf, ce côté tour du terrain, à célébrer l'équipe avec les supporters, malgré une défaite. Mais j'étais vraiment au kiff devant mon équipe. Voir cette équipe qui donne tout, réaliser que perdre contre Lille, contre Lens, ça a rien de vraiment infamant tant qu'on joue, que Milik va revenir, et que surtout, l'OM, mine de rien, aura toujours son mot à dire, vu le nombre d'occasions qu'ils arrivent à se procurer dans chaque match qu'ils jouent. Enfin voilà, c'était... simplement pour dédramatiser la situation. Peut-être que l'OM va perdre contre Paris et contre la Lazio, mais la saison ne se joue pas là, et cet OM de toute façon n'est pas destiné à concurrencer ces équipes-là. Alors tout le monde s'est excité, c'est très bien, on a une équipe qui joue, qui propose des émotions, et ben gardons ces émotions, restons sur ces émotions, et kiffons ces émotions, le reste on verra.
Ok, bah merci, une parole bien sage de la part de notre ancien, t'as raison de prendre ce pas de recul, en fait tu nous as juste expliqué à quel point les supporters sont versatiles et changent d'avis après des séries, quoi qu'il arrive, et c'est vrai qu'il faut garder la tête froide parfois. Toi Val, t'arrives à garder la tête froide avec...
Moi je suis complètement d'accord avec Alex, parce que je vis la situation inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu un début de championnat qui était poussif, en tout cas sur le plan comptable, mais tout le monde voit que dans le jeu, bah, il y a du progrès, il y a des joueurs qui sont en confiance, t'as des principes de jeu qui sont en train de se mettre en place, etc. Je parle évidemment à Lyon, je sais pas si je l'ai précisé, mais voilà, du coup je suis exactement dans la situation inverse d'un début de championnat qui est compliqué, mais on sait très bien que ça va bien se passer, et voilà, et chacun reste humble et sait où on va, quoi.
Et quand les dirigeants de club vont comprendre que les supporters sont moins cons qu'ils ne le pensent, et que tout ce qu'on attend c'est du jeu et voir que ça va venir et pas forcément des résultats immédiats, le foot français ira certainement mieux. Pour finir vos petites chroniques, on a Flo, évidemment, j'ai demandé à Flo de faire à propos d'un match des 5 grands championnats, il est incapable de faire comme tout le monde, il est à deux doigts de nous parler de la Ligue malaisienne. Sans mépris aucun du tout pour la Super Ligue turque, Flo, toi tu voulais t'intéresser à Başakşehir Beşiktaş comme match.
Et ouais, direction le Bosphore, à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Istanbul, Başakşehir, Beşiktaş, ce vendredi 15 octobre. Ça sera bien mieux qu'un PSG-Angers, je vous l'assure. Alors, c'est pas seulement pour voir le plaisir de revoir Nasser Chadli et Lucas Lima côté Başakşehir, ou Georges-Kevin Nkoudou et Michy Batshuayi côté Aigle Noir, car c'est bien un choc entre les deux derniers champions de Turquie et deux des meilleures équipes depuis 5 ans. Alors, évidemment, cette saison, Başakşehir au classement va plutôt lutter pour le maintien, là où Beşiktaş va encore se mêler à la lutte pour le titre. Mais il s'agit d'un des nombreux derbys stambouliotes, bien que, évidemment, pas le plus historique. Alors, bien sûr, ces derniers temps, et notamment quand Başakşehir a affronté le PSG, on a parlé de ce club, un club arrivé un petit peu comme une comète dans la première division turque, venant perturber les trois grands clubs du pays, de la capitale, Galatasaray, Fenerbahçe et donc Beşiktaş. Başakşehir, c'est un club un peu sans histoire, créé en 1990, donc très récemment, qui appartenait à la base à la municipalité d'Istanbul. Et longtemps, le club a d'ailleurs de végéter en deuxième division, malgré un passage entre 2007 et 2013 en première division. Et d'ailleurs, donc, le club, à partir de sa création, appartient à la municipalité. Le maire de cette époque, à partir de 1994, n'est autre que Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président, qui va donc être président de facto du club de Başakşehir. Le club a finalement connaître une ascension assez fulgurante avec la prise de contrôle par ce même Recep Tayyip Erdogan, mais dans les années 2010 et plus particulièrement en 2014. Alors, c'est pas lui qui est maintenant devenu le président de la République de Turquie qui va devenir le président du club, puisqu'il va mettre en fait en place ses hommes à lui, et notamment ses proches, des hommes d'affaires, mais notamment des membres de l'AKP, son parti politique conservateur. Et il va mettre en place un nouveau président, Gökçel Kumunçak, qui à la fois est donc membre de l'AKP, mais qui est aussi, et qui n'est autre, que le mari de la nièce de Recep Tayyip Erdogan. Il va pousser également de nombreux proches, donc je l'ai dit, à financer le club. Il y a notamment un sponsor qui est Medipol, qui est un groupe hospitalier privé dirigé par le médecin personnel de Recep Tayyip Erdogan. Et malgré le titre de champion en 2020, donc qui avait permis la qualification du club en Ligue des Champions contre le PSG, Başakşehir semble pourtant aujourd'hui rester un échec pour Erdogan, notamment parce que le club est jugé complètement artificiel. C'est un club très récent, il y a tellement de clubs à Istanbul que c'est un club voilà, qui n'attire pas du tout les foules, contrairement à ses grands voisins. Et pour lui, en fait, c'est vraiment un échec parce qu'il voulait que ce club puisse, à long terme, contrer l'hégémonie à la fois sportive, mais surtout idéologique, des trois grands clubs dont les supporters, donc les trois grands clubs, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, contestent largement le pouvoir. Et particulièrement, donc, ceux de Beşiktaş pour ce derby. Beşiktaş, c'est un quartier de Istanbul sur la rive européenne. C'est un quartier très jeune, artistique, un quartier de gauche, ultra hostile au pouvoir conservateur de Recep Tayyip Erdogan. Et il y a notamment les ultras de Beşiktaş qui, en 2013, donc les ultras, ce sont les Çarşı, ce qui signifie le bazar en turc. Il y a des militants politiques qui font partie de ce groupe ultra, qui vont former certains manifestants à la guérilla urbaine. Et en 2013, durant les grandes manifestations de Gezi, ils vont fédérer autour d'eux les groupes de supporters de Galatasaray et de Fenerbahçe, en dépit des immenses rivalités entre ces clubs, pour contester le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un an plus tard, en 2014, que Recep Tayyip Erdogan, fou furieux de voir les clubs, sachant que Recep Tayyip Erdogan est fan de foot, a été ancien joueur semi-professionnel, fou furieux de voir ces clubs stambouliotes contester son pouvoir, va racheter et favoriser Başakşehir. Évidemment, c'est un phénomène qui est ultra rare, ce rapprochement entre les trois grands clubs et trois grandes puissances turques, puisque Beşiktaş, donc je l'ai dit, c'est le quartier gauche de gauche et le quartier artistique. Galatasaray, c'est plutôt le club de l'élite, issu de l'université francophone très prestigieuse, là où Fenerbahçe est un club un peu moins européen et plus populaire dans son âme. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de souligner en fait la politisation des clubs de foot turcs, et notamment stambouliotes, à l'encontre de Recep Tayyip Erdogan et de son pouvoir autoritaire.
Bon bah c'est très cool tout ça, hein, entre le match des crypto-monnaies, les supporters qui sont pas capables d'avoir un avis construit et un club détenu par un président, on vit vraiment un sport formidable. Bah merci beaucoup les gars pour chacune de vos chroniques, on va pas forcément réagir à chaque fois parce qu'on est quand même un peu pris par le temps. Du coup juste pour finir en deux mots, pas forcément en lien avec ces matchs-là parce qu'on a bien vu que chacun vous êtes intéressé à ces matchs-là pour des raisons qui sont pas forcément sportives, uniquement sportivement, vous dans les deux semaines à venir, qu'est-ce qui va vous exciter le plus, sur quoi vous allez être attentif, pas forcément un match, une équipe, un coach, un joueur?
Moi je vais avoir un œil très attentif sur un sujet qui sera peut-être notre prochain sujet dans Poteau Carré, qui est la Fiorentina de d'Italiano.
On risque d'en parler un moment à un autre
parce que c'est quand même pas mal du tout ce qui est en train de se passer à Florence.
Ouais, c'est complètement nom de la ville.
C'est complètement nom de la
ville.
Ça
s'appelle étonnamment pas Fiorentine.
Voilà. Mais donc voilà, mon petit œil sportif là-dessus.
Nickel. Toi, Alex, qu'est-ce que tu vas regarder de près ?
Moi, ça va pas être. J'espère juste que la Ligue 1 va continuer de nous enchanter comme depuis le début de la saison. Je vais avoir un œil sur les envahissements de terrain parce que on a eu une pelletée de sanctions qui sont tombées ces derniers temps. Les points de retrait à Nice, là, les points de sursis Marseille, Angers, Lille, Lens. Voilà, voir si les supporters se calment un peu et reviennent un peu sur terre parce que ça devient complètement délirant.
Ouais, ça devient un peu n'importe quoi. T'as des types qui commencent à se caresser devant des caméras. Donc, toi, Flo, tu voulais regarder quoi surtout rien à voir avec les types qui se caressent devant les caméras, hein, mais je veux dire, qu'est-ce que tu regardes sportivement?
On regarde William Saliba bien plus tard et de ses copains. en fait, ce qui m'attire énormément dans le calendrier à venir, dans les prochaines semaines, c'est le calendrier du PSG justement. Il y a ce match contre Angers, la reprise de la trêve internationale, mais ensuite il y a un enchaînement en une semaine avec le Classico, donc Messi au Vélodrome, je suis très curieux de voir ça, le match contre Leipzig et la réception de Lille, qui sera au passage aussi mon retour au Parc des Princes. Mais je suis très curieux de voir ce calendrier du PSG qui va être assez costaud. Donc très, vraiment hâte de voir ce PSG-Marseille et les matchs qui vont suivre.
Personne t'avait demandé quand est-ce que tu renais au Parc des Princes.
Je crois qu'il va jouer.
Ouais, mon retour. Il croit qu'il y a des gens qui l'attendent, mais quand est-ce qu'il revient?
Du coup, les gars, c'est quoi le plus important, Messi au Vélodrome ou Flo au Parc?
Clairement
Flo.
Hein, c'est une rencontre. Bon, bah nickel top. Les gars, merci beaucoup. Tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager tout ça sur les réseaux sociaux. Ça nous serait d'une grande aide. Et je vous donne surtout rendez-vous lundi. Vous avez bien compris qu'avec ce nouveau média, on va avoir plein de formats différents. Et donc, je vous donne rendez-vous lundi, notamment sur Twitch, pour notre nouvelle émission qui s'appelle Macroscope, avec au menu du football, de la géopolitique, avec notre expert Jean-Baptiste Guégan, qui est professeur de géopolitique. Vous avez eu l'occasion de l'écouter un peu pendant l'Euro avec ses chroniques quotidiennes. Il est auteur de nombreux livres. On a hâte de vous retrouver, hâte de vous faire découvrir ce format-là. Val, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'est encore un petit peu de promo. C'est vendredi suivant, on aura la table ronde, la première émission de la table ronde, notre format dédié au football français, avec des invités très très prestigieux. Donc je vous invite à écouter ça, c'était passionnant à enregistrer.
Exactement, tous ceux qui nous suivent, vous avez pu découvrir les formats qu'on va mettre en place dans les semaines à venir. Donc streamez ça très fort, regardez tout ça, écoutez. On a vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. En tout cas, continuez à regarder du foot, continuez à dire que vous aimez ça. Ciao.